Chapitre 8. Marie Wotinska et le crépuscule. Dans l'été de 1835, Chopin apprit que ses parents iraient incessamment faire une cure à Carlsbad, et il décida sur le champ de les y devancer. Les sentiments qui l'attachaient aux siens restaient les plus vifs qu'il connût. Il partit donc, le cœur fendu de tendresse. Et lorsqu'il les retrouva, après 5 ans d'absence, il écrivit à ses sœurs, demeurées à Varsovie, avec des transports que l'on croirait ceux d'un amant comblé.
« Notre joie est indescriptible. Nous ne faisons que nous embrasser. Y a-t-il un plus grand bonheur ? Quel dommage que nous ne soyons pas tous ensemble. Comme Dieu est bon pour nous, j'écris sans ordre. Il vaut mieux aujourd'hui ne penser à rien du tout, jouir du bonheur que nous avons atteint. C'est l'unique chose que j'ai aujourd'hui. Nos parents n'ont pas changé, toujours les mêmes. Ils ont seulement un peu vieilli. Nous nous promenons, nous conduisons par le bras Madame Petite-Mère. Nous buvons, nous mangeons ensemble, nous nous cajolons, nous nous rudoyons. Je suis au comble de mon bonheur. Ce sont les mêmes habitudes, les mêmes mouvements avec lesquels j'ai grandi. C'est la même main que depuis si longtemps je n'avais pas baisée. Et voilà qu'il est réalisé ce bonheur, ce bonheur, ce bonheur. »
De leur côté, le père et la mère ne trouvent leur fils nullement changé. C'est une joie inépuisable mais brève, et comme une préface à des émotions plus profondes. Car Frédéric est invité à Dresde, chez ses amis Wotinski, et il sent déjà ces tressaillements annonciateurs, cette peur exquise, ces pressentiments physiologiques qui informent notre être intérieur des conceptions imminentes de l'amour. Chopin avait eu pour camarades, dans la pension de son père, les 3 frères Wotinski, et il connaissait depuis l'enfance leur jeune sœur Marie. Marie avait 19 ans. La goutte de sang italien qui coulait dans ses veines, cette goutte l'avait faite brune, vive, avec de grands yeux noirs et une bouche charnue, dont le sourire était, au dire d'un poète, d'une volupté ineffable. Les uns la déclaraient laide, les autres ravissante. C'est expliqué que, dans ce visage mi-slave, mi-florentin, tout dérivait de l'expression. « La brune fille d'Euterpe », disait d'elle le prince Napoléon, qui aimait à l'écouter jouer du piano pendant qu'il fumait son cigare sur la place Saint-Antoine. Car Marie exerçait toutes sortes de petits talents. Piano, chant, composition, broderie, peinture, sans vouloir ou sans pouvoir fixer ses préférences. Ce qui émanait d'elle de plus pertinent, c'était son charme, l'action profonde peut-être inconsciente d'un tempérament très riche. Dès ses 14 ans, elle avait été passionnément aimée. Volontiers, elle usait de son pouvoir sur les hommes, les troublait avec coquetterie. Son imagination était rapide, sa mémoire précise. Telle est cette camarade d'enfance que Chopin va retrouver à Dresde, où la famille Wotinski s'est établie pour quelque temps. Frédéric est plus curieux qu'ému de se revoir. Il se demande même s'il ne s'agit pas d'un simple intérêt musical, Marie ayant été autrefois l'une de ses petites élèves. Donc il arrive à Dresde, il la revoit, il est séduit, il l'aime. Cette ville qu'il a déjà visitée 2 fois lui apparaît toute neuve, toute enchantée. Marie et Frédéric s'y promènent le matin, emplis d'une mélancolie heureuse. Ils vont sur la terrasse de Brühl, regarder couler l'Elbe, s'assoient sous les marronniers du Großgarten, restent en extase au musée du Schwinger, devant la Madone de Raphaël. Ils vont ensemble faire visite à cette grande maîtresse de la cour qui avait eu tant de fierté quelques années auparavant à produire Chopin devant leur altesse saxonne. Le soir, on se rend tous en famille chez un oncle de Marie, le palatin Wotinski, qui avait présidé la dernière réunion du Sénat polonais avant la prise de Varsovie. Exilé, ayant vu confisquer une grande partie de ses biens, le vieillard vivait à présent à Dresde, la seconde capitale de ses anciens rois, entouré de ses estampes, de ses livres, de ses médailles. C'était un fin petit homme, au visage glabre, avec un toupet blanc sur la tête. Jadis, il avait guerroyé, reçu Napoléon à Vilna, puis s'était fait prendre à Leipzig, aux côtés de Poniatowski, mourant. Son défaut grave était de n'aimer point la musique, et maintenant qu'on en faisait chez lui tous les soirs, il observait avec un peu d'humeur que sa jeune nièce dardait des yeux luisants sur ce faiseur de mazurka. Il désapprouvait plus encore certains soupirs et chuchotements qui partait d'un coin du salon où ce couple d'inséparables s'isolait au nez de tout le monde. Et Frédéric continua au piano ou à la promenade ses duos d'amour, malgré les sourcils réprobateurs du palatin et sous les yeux indulgents de la mère. Un mois entier s'égrena dans ses nouveautés passionnantes. Puis il fallut penser au départ. Un matin de septembre, il monta pour la dernière fois dans le salon où l'attendait la jeune fille. Un bouquet de roses jonchait la table. Elle en prit une et la lui donna. 11 heures sonnèrent à l'horloge de la Frauenkirche. Chopin restait figé devant elle, pâle, le regard absent. Peut-être songeait-il à cette mort de soi qui est toujours un adieu, si chargé d'avenir qu'on le veuille. Ou écoutait-il le rythme mélodique de sa peine? En tout cas, la seule expression de douleur qui vint crever à la surface, ce fut un thème de valse. Il s'assit au piano, le joua, y enfouit tous les cris de sa solitude. Plus tard, Marie l'appela la valse de l'adieu. Il est remarquable que Chopin, retenu par une pudeur insurmontable, ne l'ait jamais publiée. Il l'écrivit pourtant, la recopia et l'offrit ce dernier jour à son ami avec cette bien simple dédicace pour Mademoiselle Marie, Dresde, septembre 1835. Fontana l'édita après la mort de l'auteur, œuvre posthume, opus 69 numéro 1, valse en la bémol majeur. On veut y entendre le murmure de deux voix amoureuses, les coups répétés de l'horloge et le roulement des roues brûlant le pavé, dont le bruit couvre celui des sanglots comprimés. C'est possible, après tout, en dépit de Schumann et de son langage muet. Quoi qu'il en soit, Chopin conserva cette fleur que lui tendit Marie. Nous la retrouverons plus tard, mise sous enveloppe et marquée d'un signe par celui pour qui le malheur et l'idéal eurent toujours l'odeur d'une rose de fin d'été. Sur la route du retour, Chopin s'arrêta à Leipzig, où il retrouva Mendelssohn, qui le conduisit tout droit chez le père Wieck, sa fille Clara et Robert Schumann. Le petit logement des Wieck groupa ce jour-là les trois plus grands compositeurs de cette époque. Arrivé à Paris, Chopin se cloîtra chez lui afin de vivre tête à tête avec le bien-aimé visage qui maintenant habitait son désert. Il écrivit, il reçut des lettres. Elles étaient, de part et d'autre, un peu ternes, parce qu'ils ne savaient bien parler tous deux qu'en musique. Mais quoi, la plume d'un amant n'est pas nécessairement littéraire, ni chargée de sentiments. Il en est même qui, à force d'être exigeante, dédaigne les mots si fatigués du vocabulaire de l'amour. Aux novices et aux purs, de très pâles nuances suffisent pour montrer leur cœur nu. Frédéric répond, envoie sa musique, et surtout il compose. L'année 1836 s'ouvre sous le signe de Marie. Il édite le concerto en fa mineur et la grande polonaise pour piano et orchestre. Il compose la ballade en sol mineur, qui est le monument de son amour. Ce n'est pas délibérément qu'un artiste découvre puis façonne le résidu de ses expériences amoureuses. Les joies et les souffrances, il les reçoit, il s'en laisse travailler, et c'est après seulement le rude labeur des luttes contre soi-même, la corrodation de chacune de ses illusions sous le sel de ses larmes, que peut naître le fruit coûteux dont il portait le germe. C'est de cette chimie obscure, des déceptions que lui causaient peu à peu les lettres de Marie, que sortit la ballade en sol mineur, opus 23. Schumann la disait un des morceaux les plus sauvages, les plus personnels de Chopin. Il aurait pu ajouter le plus douloureux, donc le plus passionné, puisqu'il n'y a pas de passion sans douleur. Ici, c'est la passion même que nous voyons en croix, dont nous entendons les cris. Quel puissant instinct de poète de traiter son mal sous la forme narrative, comme un conte dramatique. Car la ballade est en théorie un morceau pour chant avec accompagnement. Chopin transposait sous forme de légende le vieux mal des hommes qui était devenu pour la seconde fois le sien. C'est par là, parce qu'elle nous raconte de lui, par ce côté involontaire, irrésistible, d'un sentiment unique et malheureux, que la ballade en sol mineur garde un accent qui nous flatte. Elle nous convainc que nous aussi, nous sommes marqués du signe de l'amour. Schumann, qui le revit cet été-là à Leipzig, raconte les heures enchantées qu'ils passèrent ensemble au piano. Écouter le visionnaire, c'était devenir soi-même le songe de son esprit. mais rien n'était plus pénible que l'habitude qu'avait Chopin de passer rapidement son doigt d'un bout à l'autre du clavier à la fin de chaque morceau, comme pour en chasser de force le rêve qu'il avait créé. Détail curieux, au début de la ballade, à la dernière mesure de l'introduction, on voit sur l'édition originale un « ré » évidemment façonné avec un « mi » ultérieurement corrigé. Saint-Saëns écrit à ce sujet « Ce « mi » supposé donne un accent douloureux tout à fait d'accord avec le caractère du morceau. Était-ce une faute de gravure? Était-ce l'intention première de l'auteur? Cette note détermine un accent dissonant d'un effet imprévu. Or, les dissonances recherchées aujourd'hui comme des truffes étaient alors redoutées. De Liszt, que j'ai interrogé à ce sujet, je n'ai pu obtenir que cette réponse. J'aime mieux le mi bémol. J'ai conclu de cette réponse évasive que Chopin, en jouant la ballade, faisait entendre le ré. Mais je suis resté convaincu que le mi bémol était sa première idée et que le ré lui avait été conseillé par des amis craintifs et maladroits. Je reproduis ce détail pour les amis des sources, pour ceux qui aiment à surprendre dans les cœurs non toujours les sons les plus doux, mais les plus vrais. Ils entendront la nuance. Donc, Chopin travaille, économise, et prépare son revoir avec Marie. Il refuse une invitation de Mendelssohn, qui voudrait le faire venir à Düsseldorf pour un festival de musique. Il refuse à Schumann, qui pourtant signe sa lettre avec amour et adoration. Toutes ses forces, il les réserve au voyage de Marienbad, qu'il entreprend enfin au mois de juillet 1836. Par une radieuse matinée d'été, Chopin arrive devant les collines boisées qui entourent la petite ville d'Eau autrichienne où l'attend sa bien-aimée. L'impression est si puissante qu'il ferme les yeux comme sous le choc d'une douleur. Il a le pressentiment d'avoir à l'instant, avant même le revoir, touché la cime de sa joie. Il connaît cette angoisse irraisonnée que poussent devant eux les faux bonheurs, déjà finis, vécus, vidés, alors qu'ils ont à peine commencé d'être. Pourtant, le visage tumultueux de Marie le remet d'aplomb et lui rend sa confiance. Mais une nuance de gêne, une manière d'être un peu plus cérémonieuse que l'année précédente, chez la jeune fille et chez sa mère, lui laisse de l'inquiétude. Le 24 août, ils retournent tous ensemble à Dresde, ville aimée. Ils y passent encore 2 semaines. 2 semaines qui devaient fatalement conduire à un dénouement. Le 7 septembre, avant-veille du départ de Chopin au crépuscule, il demande à Marie si elle accepterait de devenir sa femme. Elle consentit. On n'en sait pas davantage, sinon que la comtesse, elle aussi, donna son agrément, mais demanda le secret. Il fallait cacher cette décision au père, qu'on fléchirait sans doute, mais l'orgueil de sa race rendait un consentement rapide improbable. De plus, il jugeait la santé de Chopin fragile. Frédéric partit, emportant cette promesse et son désespoir. Il savait que le pressentiment de Marienbad ne l'avait pas trompé, et déjà ne croyait plus au bonheur. Pourtant, les Wotinski écrivirent, la comtesse surtout. Marie ajoutait de petits post-scriptum. Voici la première lettre de Madame Wotinska. 14 septembre 36. Cher Frédéric, suivant notre convention, je vous envoie une lettre. Je l'aurais déjà expédiée il y a 2 jours, si ce n'eût été une dent que j'ai fait extraire après votre départ et dont j'ai beaucoup souffert. Je ne peux assez regretter que vous soyez parti samedi. Ce jour-là, j'étais souffrante et je n'ai pu assez m'occuper du crépuscule. Nous en avons trop peu parlé. Le lendemain, j'aurais pu en causer plus longuement. Monsieur de Girardin dit « En toute chose, le lendemain est un grand jour. » Nous l'avons devant nous. Ne croyez pas que je rétracte ce que j'ai dit. Non, ne croyez pas que je rétracte ce que j'ai dit. Non, mais il fallait délibérer sur la voie à suivre. Je vous prie seulement de garder le secret. Portez-vous bien, car tout dépend de cela. Pour le 15 octobre, je serai à Varsovie. Je verrai vos parents et vos sœurs. Je leur dirai que vous vous portez bien et que vous êtes d'excellente humeur. Cependant, je ne parlerai pas du crépuscule. Adieu, couchez-vous à 11 heures et jusqu'au 7 janvier, employez l'eau de gomme comme boisson. Portez-vous bien, cher Fritz. Je vous bénis de toute mon âme comme une mère aimante. » Le crépuscule, c'est ainsi qu'ils nommaient entre eux les amours de Chopin. Jamais nom de hasard ne tomba plus juste. À une lettre que son frère Casimir a expédie le lendemain, Marie ajoute ces lignes. « Nous ne pouvons nous consoler de votre départ. Les 3 jours qui viennent de passer nous ont paru des siècles. Faites-vous de même? Regrettez-vous un peu vos amis? Oui, je réponds pour vous, et je pense que je ne me trompe pas. Du moins, j'ai besoin de le croire. Je me dis que ce oui vient de vous, car, n'est-ce pas, vous l'auriez dit. Adieu, mio carissimo maestro. N'oubliez pas maintenant Dresde et dans peu la Pologne. Adieu, au revoir. Ah, si cela pouvait être au plus tôt. Maria. » Voilà la lettre la plus amoureuse que Chopin ait jamais reçue de Marie Wodzinska. En octobre, nouvelle épître de la comtesse, nouveau post-scriptum de Marie. En janvier 37, la comtesse Wodzinska s'inquiète du piano Pleyel que lui a expédié Chopin. Elle remercie pour un nouvel envoi d'autographe et ajoute à la fin de sa lettre cette phrase un peu ambiguë. Il faudra désormais s'informer plus prudemment encore du bien-aimé. Marie rédige son post-scriptum, son pensum, voudrait-on dire. Maman a grondé, et moi je remercie gentiment, très gentiment, et quand nous nous reverrons, je remercierai plus gentiment encore. On voit que je suis très paresseuse pour écrire, parce que remettre mes remerciements à notre prochaine entrevue me dispense aujourd'hui de beaucoup de mots. Maman vous a décrit notre façon de vivre, il ne me reste donc rien à vous apprendre, sinon qu'il dégèle. Grande nouvelle, n'est-ce pas? Surtout très importante à savoir. Cette vie tranquille que nous menons ici est ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi je l'aime, pour à présent s'entend, car je ne voudrais pas que cela fût toujours ainsi. On prend son parti le mieux qu'on peut, quand cela ne peut être autrement que cela n'est. Mais il faut finir et vous recommander à Dieu. J'espère que je n'ai pas besoin de vous répéter l'assurance des sentiments de votre fidèle secrétaire. Marie. Cette fois, Chopin ne dut plus voir dans ses mots sans couleur les moindres feux du crépuscule. La nuit était descendue entière. Il prit l'album que lui avait donné Marie l'année d'avant pour y mettre une page de musique. Pendant 1 an, l'album était demeuré vierge. Chopin disait
« Je n'aurais pu y écrire quoi que ce soit, même si j'étais resté 100 ans devant. »
Maintenant, il pouvait le remplir, parce qu'il comprenait que Marie ne l'aimait plus. Il écrivit donc sur la première page un « Lento con gran espressione » et 8 autres mélodies sur des paroles de Wyczewski et de Mickiewicz. Et bientôt après, il reçut en réponse 7 lettres, la dernière. Pour Frédéric Chopin. Je ne puis vous écrire que quelques mots en vous remerciant pour le joli cahier que vous m'avez envoyé. Je ne tâcherai pas de vous dire combien j'ai éprouvé de joie en le recevant, ce serait en vain. Recevez, je vous prie, l'assurance de tous mes sentiments de reconnaissance que je vous dois. Croyez à l'attachement que vous avouez pour la vie toute notre famille et particulièrement votre plus mauvais élève et ami d'enfance. Adieu. Maman vous embrasse bien tendrement. Adieu, gardez notre souvenir. Maria. On ne sait si c'est de cœur ou d'intelligence que cette personne manquait. Du reste, cela n'a guère d'importance. Chopin accepta en silence la rupture de ses fiançailles, mais ni son corps ni son cœur n'en guérirent jamais. Son amie Camille Pleyel l'emmena quelques jours à Londres pour le distraire. Il y fut très souffrant. La tuberculose qu'il couvait semble avoir commencé dès lors ses ravages. Chopin prit les billets de Marie Wodzinska et les mit, avec la rose de Dresde, dans une enveloppe sur laquelle il écrivit ces 2 mots polonais. Moja bieda, mon malheur. On retrouva après sa mort ce pauvre paquet, noué d'une faveur tendre.